VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Togo, le dialogue ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition après 6 mois de crise politique dans le pays a connu ses premières avancées avec la libération de 45 personnes arrêtées lors des marches contre le pouvoir, l'une des revendications de l'opposition. Le premier jour des débats, qui s'est déroulé à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise, a été largement dominé par les mesures d'apaisement exigées par les opposants. Le président togolais a décidé d'accorder une grâce présidentielle à 45 des 92 personnes détenues dans les prisons du pays à la suite de leur participation aux manifestations. La justice togolaise examinera la situation des autres détenus cas par cas, a déclaré à la presse Daniel Osei, porte-parole de la délégation ghanéenne. Selon le responsable ghanéen, les discussions ont eu lieu dans une bonne ambiance et ont abouti à des conclusions fructueuses. Les travaux sont suspendus jusqu'à vendredi pour donner le temps aux deux parties de réfléchir à certaines questions qui ont été abordées, a-t-il ajouté. Les deux parties ont par ailleurs convenu que la délégation gouvernementale sera la bienvenue aux discussions. La coalition d'opposition augmentera à son tour ses effectifs en fonction du nombre de représentants du gouvernement présent. Le pouvoir et l'opposition ont aussi accepté de suspendre les manifestations dans le pays jusqu'à la fin du dialogue, qui est censé durer une dizaine de jours. Nouvelle violence post-électorale en Guinée. Un gendarme a été tué hier dans des heurts entre manifestants et forces de sécurité dans la banlieue de Conakry, la capitale. Ces protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février ont eu lieu alors que la grève des enseignants continue malgré les menaces du gouvernement de sévir contre les grévistes. Raïssa Girondin.
Le gendarme en question est mort dans des troubles à Koloma, dans la banlieue de Conakry, selon le porte-parole de la gendarmerie, le colonel Mamadou Alpha Barry. Les circonstances de sa mort restent floues. Par ailleurs, des milliers de jeunes ont manifesté hier à Conakry pour dénoncer l'indifférence du gouvernement et exiger le retour de leurs enseignants dans les salles de classe. Les enseignants sont en grève depuis le 12 février pour exiger une augmentation des salaires, de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement menace de couper les salaires des grévistes et de prendre des sanctions disciplinaires. La semaine dernière, 2 jeunes ont été tués dans ces violences post-électorales qui ont déjà fait au moins 7 morts depuis les élections locales du 4 février, dont les résultats se font toujours attendre.
Burundi, plus de 5 millions de Burundais se sont inscrits sur les listes électorales pour le référendum constitutionnel controversé prévu en mai et les élections générales de 2020. C'est ce qu'annonce le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, cité ce mardi par des médias locaux. La commission n'attendait pas plus de 4,5 millions d'inscrits. L'affluence enregistrée s'explique par l'engouement et le sens patriotique des citoyens burundais, qui sont les initiateurs de ce référendum constitutionnel, déclare Bujumbura. Le processus électoral en RDC maintenant, les évêques catholiques demandent à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de lever tout équivoque et suspicion autour de la machine à voter en permettant sa certification par les experts nationaux et internationaux. Cette requête est formulée alors que le débat autour du vote continue malgré des assurances de la Commission électorale. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'introduction de la machine à voter dans le système électoral congolais ne fait pas l'unanimité. Cela prédit des contestations des résultats des prochaines élections, a déclaré en conférence de presse le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Selon l'abbé Donatien Cholet, la certification de cette machine par des experts nationaux et internationaux participerait de la clarification du processus électoral. Pour rappel, certains pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient déjà exigé le test de cette machine avant son utilisation lors des élections. Réagissant sur Top Congo FM à cet appel des évêques catholiques, Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, rassure, je cite, « La CENI bénéficie de l'appui massif en termes d'assistance électorale d'experts tant nationaux qu'internationaux. Nous avons la présence de 52 experts internationaux qui sont nos conseillers techniques et qui nous assistent. S'il y a d'autres experts qui vont encore s'ajouter, ils sont tous les bienvenus. » Fin de citation. Le président de la centrale électorale congolaise rappelle par ailleurs que l'utilisation de la machine à voter n'a rien à voir avec le vote électronique. Il est impossible aujourd'hui d'organiser un vote électronique en République démocratique du Congo. Le vote que nous proposons avec avec la machine, c'est un vote à papier. Ce n'est pas la machine qui fera le comptage des voix. Le comptage des voix va se faire manuellement comme cela a toujours été fait. Le seul résultat qui sera noté sur les procès-verbaux est le résultat dépouillé manuellement devant témoins dans tous les bureaux de vote, souligne Corneille Nanga. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, trois partis d'opposition appellent au boycott des élections sénatoriales du 25 mars. Les formations en question doutent de l'impartialité du corps électoral devant choisir les 70 sénateurs. Mais de grandes manœuvres politiques sont déjà enregistrées autour de ce scrutin, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
L'Alliance des forces progressistes est l'une des premières formations politiques à avoir appelé au boycott des élections sénatoriales au Cameroun. Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes.
Nous avons un Sénat sortant qui a été élu partiellement. L'AFP et toutes les autres vraies forces du changement ne sauraient se reconnaître ou alors encourager les gens à y participer.
Pour le parti Univers, dont la masse militante est jeune, l'institution d'un Sénat est sans fondement au Cameroun. Prosper Nkumvondo, président du parti Univers.
Dans la politique du parti Univers, le Sénat en tant qu'institution parlementaire n'existe pas. Si nous arrivons d'accéder au pouvoir, le Sénat fait partie de ces institutions-là que nous allons faire disparaître.
Plus acerbe, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'insurge contre une élection source de futurs conflits au Cameroun. Sostin Médard Lipote, secrétaire national à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun.
Il fallait calmer les anglophones en organisant des élections claires et transparentes à la base pour qu'ils aient des nouveaux leaders. Dans le sud-ouest, comme dans le nord-ouest, des maires anglophones, notamment dans le sud-ouest, ont été attaqués des gueux de gouvernement, dont des maisons brûlées. Donc la crise anglophone n'est pas seulement une crise politique au sens général du terme, c'est aussi une crise de leadership. Comment les conseillers municipaux en fin de mandat peuvent-ils élire de nouveaux sénateurs? Et ça va aggraver la crise anglophone dans le sud-ouest.
Malgré cela, certaines formation politique de l'opposition entend participer pour la première fois aux élections sénatoriales. À l'instar du FSNC, le parti n'a pourtant pas de conseillers municipaux parmi les électeurs. Issa Tirou Mabakari, président du FSNC.
Je n'ai pas suffisamment de grands électeurs. Vous savez, on dit que la seule bataille perdue est celle qui n'est pas livrée. Nous avons estimé indispensable d'être présent à cette compétition.
L'on évoque en coulisses une éventuelle alliance entre le parti au pouvoir et la formation politique du porte-parole du gouvernement camerounais. Par contre, au sein de l'UPC, le plus vieux parti politique du Cameroun, l'on refuse toute alliance avec le RDPC, parti au pouvoir, pour les élections sénatoriales. Jean-Jacques Biadeu, délégué aux questions électorales de l'UPC.
Nous avons un protocole d'alliance avec le RDPC, mais à certains moments, il faut réactualiser.
Donc pour ces sénatoriales, ça ne marche pas.
Nous irons à toutes les élections. D'ailleurs, le secrétaire général a dit, tant que le parti n'est pas fort, il ne voit pas pourquoi nous allons partir en victime résignée derrière un autre parti pour signer des alliances.
C'est la deuxième fois que les sénateurs camerounais seront élus 22 ans après la création du Sénat. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, l'un des frères de la sulfureuse famille Gupta conteste le gel de ses biens à hauteur de 700 000 euros. Les frères Gupta sont au cœur d'un vaste scandale de corruption dans lequel est impliqué l'ancien président Jacob Zuma. Les précisions d'Ekia Badou.
Selon Luvuyo Mfaku, porte-parole du parquet sud-africain, Atal Gupta a demandé à la justice de revoir sa décision de geler des biens d'une valeur de 700 000 euros. Il dément avoir profité d'un projet d'exploitation laitière qui ne s'est jamais réalisé dans la province du Free State. Le parquet doit faire connaître sa décision demain, mercredi. La semaine dernière, la police a perquisitionné la résidence des Gupta à Johannesburg. 8 personnes ont été arrêtées. La police a aussi émis un mandat d'arrêt contre un autre frère Gupta, Ajay, dans une affaire de détournement de fonds. Le ministre de la police, Fikile Mbalula, précise que 5 personnes sont recherchées dans un vaste scandale lié à la famille d'origine indienne. Selon un rapport de la médiatrice de la République publié en 2016, les Gupta sont impliqués dans la gestion des affaires de l'État, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics. La semaine dernière, le président Jacob Zuma, un ami des Gupta, a été forcé à la démission.
Jacob Zuma a été remplacé par le leader de l'ANC au pouvoir, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.